Donc,
aujourd'hui, je suis bien là pour vous parler eh bien, essentiellement de la France. Malheureusement, ce n'est pas que ça me fasse plaisir. Mais nous avons aujourd'hui en France, si vous suivez l'émission, si vous suivez ce qui se passe, si vous essayez de vous informer vraiment, nous avons des violences policières, nous avons une liberté d'expression menacée, nous avons une liberté de la presse menacée, nous avons des ventes d'armes nous rendant complices de crimes de guerre, nous avons une politique indigne d'accueil des migrants rendant les droits des migrants menacés en France, nous avons les militants des ONG qui sont empêchés d'aider les migrants, rappelez-vous l'Aquarius qui a été bloqué à Marseille, et donc de nombreux militants menacés des droits humains, harcelés, criminalisés pour empêcher d'aider les migrants. Donc voilà, je suis assez émue, choquée de vous rappeler tout ça, mais bon, c'est ma mission. Donc je vais donc vous rappeler toutes ces choses, et puis après je vous lirai justement à ce propos, à titre personnel, c'est pas au nom d'Amnesty International, mais un extrait de la lettre d'une personne que je trouve aussi courageuse, qui est un scénariste de la BD à succès Les Vieux Fourneaux, qui s'appelle Wilfried Lupano, et qui a publié récemment une lettre ouverte au ministre de la Culture où il expliquait pourquoi il refusait de recevoir une médaille. Et parce qu'il dit que le gouvernement français actuel fait honte. Et il explique pourquoi il lui fait honte. Et je trouve qu'il écrit très 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 bien. Voilà. Donc je vais commencer par liberté d'expression menacée, droit aux migrants menacés, délit de solidarité pour les militants qui aident les migrants et qui sont donc, comme je vous disais, harcelés, criminalisés. Donc la dernière émission, je vous avais parlé par exemple de Tom Chotkowski, pardon, qui est un défenseur britannique des droits humains, et je vous ai rappelé qu'il est menacé, il est dans le box des accusés pour avoir observé des violences policières. Et bien là, je vous rappelle le cas donc de Loane Torondel, qui est menacé pour un tweet. Donc c'était avant-hier, lundi 27 mai, que s'est tenue à la cour d'appel de Douai l'audience d'appel contre la condamnation de Loane Torondel. Donc en septembre, je rappelle que c'est un défenseur des droits des migrants qui avait publié sur Twitter la photographie de policiers se tenant au-dessus d'une des nombreuses personnes régulièrement expulsées des campements informels de Calais. Donc lors de ce dernier appel, donc lundi, il y a deux jours, l'avocat de Loane Torondel a demandé l'annulation de sa condamnation. Donc on attend encore la décision du tribunal et elle est attendue pour le 24 juin. Loane Torondel n'a rien fait de mal, au contraire, et sa condamnation pour diffamation doit être annulée. Les efforts des personnes et des ONG qui viennent en aide aux personnes en détresse devraient être applaudis, célébrés et soutenus, et non considérés actuellement, aujourd'hui en France, comme des infractions. Donc je reviens encore sur cette condamnation. Ce tweet qui avait été publié par Loane Torondel, donc c'était en janvier 2018, alors qu'il suivait la situation humanitaire des migrants et des réfugiés qui est grave et assez lamentable à Calais, donc dans le cadre de son travail pour l'association L'Auberge des migrants. Il avait mis une photographie jointe à son tweet qui montrait des agents de police français se tenant au-dessus d'un homme qui est un migrant assis sur un sac de couchage. Et la légende qu'il avait mise suggérait que les agents de police sont sur le point de prendre la couverture de cet homme en dépit des basses températures. Donc ce que déclare Amnesty, eh bien, c'est que Amnesty s'oppose aux lois qui érigent en infraction la diffamation, qu'elles portent sur des personnalités publiques ou sur des particuliers. Les affaires de diffamation devraient relever de procédures civiles. De plus, Amnesty est au fait de nombreux rapports selon lesquels les forces de police font preuve de comportements violents à l'encontre de réfugiés, de migrants et de personnes défendant leurs droits dans la région de Calais. Il est donc normal de les dénoncer. C'est un inquiétant, important, parce que si cette condamnation est maintenue, elle risque de créer un dangereux précédent pour quiconque tente de faire état des violences policières en France. Cette décision aura également un effet glaçant sur le travail des défenseurs des droits des migrants et laissera donc aussi les migrants et les réfugiés dans une situation encore plus précaire qu'elle ne l'est. Donc je vais vous faire écouter juste une minute, une petite témoignage de donc Loane Torondel. Voilà, alors je vous fais écouter son petit témoignage.
Je m'appelle Loane Torondel, j'ai 22 ans et je suis travailleur humanitaire en France.
Je défends les droits des migrants et des réfugiés, comme le droit d'asile et l'accès aux besoins fondamentaux, et aussi sur le droit à la santé pour les personnes en difficulté.
J'ai travaillé pendant 2 ans à Calais avec l'auberge des migrants, où je travaillais sur les abus et les violences dont sont victimes les migrants à la frontière, et je dénonçais ces actes dans des rapports, à la presse ou sur les réseaux sociaux. Je suis accusé de diffamation pour avoir dénoncé sur Twitter les abus commis sur des migrants à Calais, notamment en confisquant leur couverture. J'ai été condamné en première instance au tribunal de Boulogne-sur-Mer. Nous avons fait appel de cette décision et nous aurons l'audience au cours d'appel en mai 2019.
Voilà. Alors maintenant, je vais passer au contrôle des armes, la vente des armes en France. Donc, je vais vous parler d'une actualité à propos du navire Barry Tabouk, qui est le navire que nous appelons le navire de la honte. Ce navire saoudien, donc le Barry Tabouk, qui est suspecté de transporter du matériel militaire canadien à destination de l'Arabie saoudite, on demande qu'il soit immobilisé en France. Il doit transiter justement par le grand port maritime de Marseille-Fos actuellement. Donc il y est depuis le 28 mai, donc depuis hier. Il existe un risque majeur que ce matériel militaire soit utilisé par les forces armées saoudiennes pour commettre des crimes de guerre et d'autres exactions au Yémen. Amnesty International a également des raisons légitimes de craindre que du matériel de guerre français à destination de l'Arabie saoudite soit chargé au port de Marseille-Fos. Alors je rappelle que les 9 et 10 mai derniers, suite à la mobilisation des organisations non gouvernementales de l'opinion publique et de quelques élus, un premier cargo saoudien, le Barry Yanbu, a été empêché d'accoster au port maritime du Havre, où il devait charger une cargaison d'armes à destination de l'Arabie saoudite. Donc nous espérons qu'il en sera de même et qu'il y aura une action actuelle, enfin sur à Marseille-Fos, ce qui est probable. Donc j'ai cru entendre aussi que les dockers pour l'instant bloquaient ce navire. Le passage de ce second navire, le Barry Tabouk, est un nouveau test qui met à l'épreuve la volonté de la France de respecter ses obligations au regard du traité sur le commerce des armes et de la position commune de l'Union européenne sur les exportations d'armes. Ça, c'est une déclaration de Émeric Éloin qui est chargé de plaidoyer armes à Amnesty International. Et donc, il dénonce le fait que la France ne respecte plus du tout le droit international. Au terme donc de ces deux instruments internationaux, un pays ne doit pas autoriser le transit d'un navire s'il existe un risque majeur ou manifeste que les armes qu'il transporte soient utilisées pour commettre ou faciliter des exactions telles que des crimes de guerre. L'escale du Barry Tabouk à Marseille n'était originellement pas prévue par le calendrier de la compagnie de transport maritime Barry, donc la compagnie saoudienne. Alors qu'il devait faire route sur Gênes après son escale au Canada, le navire a été redirigé vers Marseille et a abandonné son escale italienne. Nous avons tout lieu de craindre que le chargement d'armes non embarqué par le Barry Yanbu et empêché au Havre par la mobilisation de la société civile soit finalement chargé sur le Barry Tabouk. Il ne faut pas laisser la possibilité à ce navire de la honte de charger une éventuelle cargaison dangereuse d'armes françaises et de transporter des armes provenant éventuellement d'autres pays comme le Canada et de les acheminer vers l'Arabie saoudite. Donc je rappelle que le 28 mai dernier, le média Disclose a révélé que, selon ses sources, le Barry Tabouk doit charger des munitions pour les canons César saoudiens au terme du contrat Oasis 6. Ce chargement, s'il intervenait, serait contraire à l'article 6.3 du traité sur le commerce des armes, le TCA, qui stipule qu'aucun transfert ne doit avoir lieu s'il existe un risque que ces équipements servent à commettre des violations des droits humains, dont des crimes de guerre. La France fait donc partie de ces nombreux États qui, bien qu'ils soient partis au TCA, continuent de fournir des armes à l'Arabie Saoudite, et ce malgré le risque maintes fois prouvé qu'elles soient utilisées pour commettre des crimes de guerre au Yémen. En persistant à fournir des armes à l'Arabie Saoudite, la France méprise ouvertement ses obligations internationales. Selon une analyse récente de l'Observatoire économique de la défense, les exportations françaises d'armement ont été dynamisées en 2018, notamment par la livraison de véhicules blindés à l'Arabie Saoudite. Ces véhicules blindés de combat, des VAB Mk 3, sont produits par Arcus et équipés de tourelles de moyen calibre ARX-25, fabriquées par Nexter. Il y a aussi donc du matériel militaire qui provient du Canada pour l'Arabie Saoudite. Le 17 mai 2019, le Barry Tabouk a quitté le port de Saint John au Canada. Selon des informations crédibles recueillies par Amnesty, il est fort probable qu'il ait pris en charge à son bord une cargaison de véhicules blindés légers canadiens à destination de l'Arabie Saoudite. Précédemment, Amnesty a pu vérifier que le premier navire, le Barry Yanbu, au cours d'un voyage effectué en octobre 2018, avait assuré le transport de véhicules blindés canadiens à destination de l'Arabie Saoudite. Le Canada, qui est en cours d'adhésion au traité sur le commerce des armes, doit lui aussi impérativement mettre en conformité son droit national avec les obligations du traité pour que de telles exportations ne puissent plus avoir lieu. Donc nous, Amnesty et tous les autres partenaires, continuerons de surveiller de près les transits de navires saoudiens susceptibles de transporter des équipements militaires et continuerons à dénoncer les États qui bafouent leurs obligations juridiques internationales. Donc Amnesty France lance actuellement une campagne sur le contrôle des armes de la France et le besoin de transparence, donc pour l'instant c'est aucune transparence, sur le sujet de la part du gouvernement français. Donc dans ce contexte, Amnesty appelle le gouvernement français à rendre dans les délais son rapport annuel au Parlement sur les exportations d'armes de la France, et ceci avant le 1er juin, et à donner toutes les informations nécessaires pour exercer un contrôle parlementaire. C'est un compte à rebours pour Amnesty France, donc jusqu'au samedi 1er juin. Vous pouvez agir sur le site, vous pouvez trouver aussi les pétitions correspondantes et au moins les signer. Je rappelle aussi donc qu'il y a eu, je l'avais dit la dernière émission, donc je vous parlais de liberté de la presse menacée tout à l'heure. Eh bien, je rappelle que 7 journalistes ayant travaillé sur les révélations des Yemen Papers ont été entendus par la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, dans le cadre d'une enquête préliminaire pour, entre guillemets, compromission du secret de la défense nationale qui a été ouverte par le parquet de Paris après le dépôt d'une plainte par le ministère des Armées. Alors Amnesty, bien sûr, répond et lance une action urgente pour défendre ces journalistes qui ne font que donc dénoncer ce qui se passe. Voilà, donc pour complément aussi d'information, en 2014, le Canada a signé le plus important contrat d'armement de son histoire avec l'Arabie Saoudite, approuvé en 2016 par le gouvernement de Justin Trudeau. Donc c'est un contrat qui concerne une exportation de véhicules blindés de combat pour un montant de 14 milliards de dollars canadiens. Il comprend notamment la livraison de 928 véhicules LAV-6 produits par General Dynamics Land System en Ontario. Donc depuis, Amnesty International Canada et une coalition d'ONG se mobilisent elles aussi pour empêcher la livraison de ces matériels de guerre. Alors toujours dans cette thématique, donc cette campagne d'Amnesty pour demander la transparence et par rapport au contrôle des armes, Amnesty donc encourage à utiliser donc toutes les associations qui luttent dans le même sens que nous, un documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube ou attendez, où est-ce que c'est déjà? Oui, c'est réalisateur Anne Poiré en fait. On peut le retrouver, donc il s'appelle « Mon pays fabrique des armes ». Et en fait, ce documentaire va être utilisé par Amnesty pour son action éducative par rapport à cela, pour informer les citoyens sur ce qui se passe. Donc c'est en fait un documentaire qui dure 73 minutes, qui est sorti déjà en octobre 2018. Donc il est passé, je pense, sur France 5 ou sur Arte déjà. Donc l'histoire de ce documentaire, bon, je vous fais encore une petite... point de rappel, petit résumé pour resituer encore la situation brièvement sur l'exportation des armes, la fabrique des armes par la France. Donc la France, ceci discret marchand d'armes, l'industrie française de l'armement, ce sont 165 000 emplois, 4 000 PME et 6,9 milliards d'euros de commandes émanant de pays étrangers en 2017. Pendant le quinquennat Hollande, sous l'impulsion de Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense, la France s'est hissée du 5e au 3e rang du classement des plus gros exportateurs d'armes au monde. C'est important de se le rappeler. En 2015, Dassault a vendu ses 24 premiers avions Rafale à l'Égypte. Alors ça aussi, c'est très important de rappeler la vente d'armes de la France à l'Égypte. J'en ai parlé à ce moment-là, donc il y a plusieurs mois de ça, je me souviens très bien. Donc, pourquoi c'est problématique cette vente d'armes à l'Égypte ? Eh bien, puisque l'Égypte, c'est un État qui a étranglé, qui continue à étrangler sa population à coup de disparitions forcées et de cybersurveillance. Le régime autoritaire du maréchal Al-Sisi est devenu en 2015 le premier client de l'Hexagone et la France s'est rendue ainsi complice de la répression sanglante des manifestations par ces ventes d'armes. En 2015, le montant global des commandes passées à la France est multiplié par 4 pour atteindre 17 milliards d'euros. C'est une stratégie qui est devenue extrêmement offensive dans un silence complet. Autre partenaire embarrassant, bien sûr, de la France, je ne vais pas en reparler puisque je viens d'en parler, c'est donc l'Arabie Saoudite, à la tête de la coalition en guerre contre la rébellion au Yémen depuis mars 2015, donc pire crise humanitaire au monde selon l'ONU, bilan d'un conflit qui serait de plus de 10 000 morts, dont au moins 5 000 civils. Et la France n'a pas cessé de livrer, et donc continue encore avec ce navire de la honte, de livrer des armes à Riyad et à ses alliés en dépit de ses engagements internationaux. Et aussi, voilà. Donc ce qui me choque aussi, c'est les mensonges d'État quand on entend le gouvernement qui nie tout ça, qui nie l'évidence et qui arrête les journalistes qui enquêtent. Donc je voulais aussi vous faire écouter, je crois que ça vaut le coup pendant que je suis. C'est quand même un sujet très 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 important. Attendez, je voulais vous faire écouter juste un tout petit extrait de ce documentaire, si je le retrouve pas. Mais c'était quand même assez étonnant. Non, bon, je le retrouve pas, c'est pas grave. Ah oui, mon pays fabrique des armes, voilà. Juste un tout petit extrait, parce que c'est assez hallucinant. Vous allez entendre un député de La République En Marche pendant donc ce documentaire, cette enquête par cette documentariste qui est très très mal à l'aise par rapport à ce sujet. Donc je vous fais écouter juste quelques minutes.
Jean-Charles Larsonneur est un nouveau député de La République En Marche, très actif. C'est un ancien du Quai d'Orsay. Surtout, il siège à la commission défense, où il suit notamment l'équipement des forces françaises et a donc rencontré de nombreux industriels depuis son élection.
Oui, monsieur le président, Jean-Charles Larsonneur, député à Brest.
Une petite question d'abord sur le soutien à l'export.
Expliquez-moi ce que c'est ce rapport, en quoi ça consiste en fait.
Eh bien, on va voir le montant des exportations, on va voir le type de matériel. Est-ce que c'est des matériels véhicules blindés, frégates, quel est le nombre de licences qui ont été accordées, ou plutôt petits armements, quels sont les ministères en charge, les différents types de matériel de guerre qui sont présentés dans le rapport.
Qu'est-ce qu'on apprend sur ce qu'on vend, par exemple, en particulier, je crois que l'Arabie Saoudite reste notre deuxième client.
Alors là, il faudrait vraiment que je regarde précisément,
on va
regarder un petit peu, parce que... Alors, Arabie Saoudite... ok, ça c'est les catégories. Est-ce qu'on va avoir notre rapport ? C'est la première fois que je le regarde, alors c'est pas un exercice très facile. Hein.
Alors pourquoi c'est la première fois que vous le regardez ?
Pourquoi c'est la première fois ? Là, c'est franchement. Non, mais on va pas le faire comme ça, quoi.
Vous nous avez expliqué tout à l'heure, vous êtes occupé par autre chose, c'est ça?
Ouais.
Vous vous concentrez sur.
Mais non, enfin, je veux bien qu'on arrête si ça vous dérange pas.
De dignité pour Amnesty International. Donc maintenant, je vais passer à une actualité par rapport... Les violences policières, histoire d'une répression d'État. C'est malheureusement pas une actualité. C'est un documentaire qui vient de sortir pour bien comprendre les violences policières et qui sera aussi utilisé par Amnesty International qui organisera des projections et des rencontres partout en France dans les prochains mois. Donc, Gilets jaunes, histoire d'une répression d'État. C'est le premier documentaire à revenir en profondeur sur les stratégies de maintien de l'ordre et leur cortège de brutalité policière en réponse du mouvement social des Gilets jaunes, lui-même accompagné de violences et dégradations. Donc, c'est un documentaire très fouillé, documenté et inquiétant, dont le propos rejoint nombre des préoccupations d'Amnesty exprimé depuis décembre 2018. Donc, il est produit et réalisé par le média Street Press. C'est un film qui croise le regard de nombreux experts, qu'ils soient sociologues, défenseurs des droits humains, journalistes, avocats, anciens ministres de l'Intérieur, syndicalistes policiers, manifestantes blessées. Ils et elles partagent leur vécu et analysent sur la répression policière lors de ces derniers mois. Donc l'une des originalités du film, c'est de replacer l'actualité de la répression actuelle dans une perspective historique. De la création de la BAC et mise en service du LBD 40 et de son ancêtre le flashball à la répression observée sous l'état d'urgence par exemple. Donc Amnesty ne partage pas forcément l'intégralité des analyses du documentaire et toutes les analyses et tous les points de vue qui sont exprimés, qui sont différents dans le film, pour des raisons d'impartialité. Mais Amnesty estime que ce documentaire suscite un débat qui est absolument nécessaire et qui apporte des éléments de compréhension sur des réalités que nous documentons et dénonçons régulièrement depuis 3 ans maintenant. Puisque ce film jette une lumière crue sur une politique de maintien de l'ordre qui restreint de plus en plus ouvertement le droit de manifester en France. L'usage souvent excessif de la force, l'emploi massif de matériel de guerre, les grenades, les LBD 40, donc lors de ma dernière émission, je vous avais parlé de ça exactement, plus précisément, donc si vous voulez retrouver le podcast ou sinon vous retrouvez aussi sur le site d'Amnesty, je vous avais parlé de l'action d'Amnesty pour demander la suspension du LBD 40 et l'interdiction des grenades explosives et l'explication de pourquoi on demande ça. Donc tout simplement en fait, puisque ce sont des armes qui mutilent gravement les manifestants. Les très nombreuses arrestations arbitraires ou injustifiées donc, sont documentées aussi dans ce film, qui s'intitule, donc, je le rappelle, « Gilets jaunes, histoire d'une répression d'État ». Voilà, donc c'est surtout aussi et surtout un film de combat qui vise à défendre une liberté qui, je crois, nous est tous et toutes chers, le droit de manifester pacifiquement en France, un droit aujourd'hui lourdement et durement remis en cause. Voilà, donc vous pourrez en savoir plus sur le site d'Amnesty si vous êtes intéressé aussi par organiser même des projections, des rencontres à propos de ce thème. Voilà. Donc en attendant, ah oui, je vous disais aussi, j'attends un appel de Jacqueline Deloffre qui devrait bientôt arriver. Donc je rappelle que c'est la responsable de la commission droits des femmes Amnesty International. Ah voilà, et donc là elle est en train de me téléphoner. Donc du coup, je vais juste mettre un petit peu de musique pour pouvoir prendre son appel, si tout va bien. Voilà, je reviens tout de suite.
There's a whole lot of women in me. You're wondering what I mean? I see. Need the good, the bad, and the crazy. I come in many shades and shapes, so don't put up the barricades. I'm not here to make a war, but I get crazy sometimes. I'm out of my mind. I'm out of my mind. Nothing can bring down or keep me sound. I won't get home on time. There's no need for you to follow me. I don't need a chaperone, you see. Sanity has gone down the drain. I won't apologize to you. I don't know what I want, it's true. Believe I'll still be fine. But I get crazy sometimes. I'm out of my mind. I'm out of my mind. Nothing can bring me down or keep me sound. I won't get home on time. But I get crazy sometimes. I'm out of my mind. I'm out of my mind. Nothing can bring me down or keep me sound. Heads up, close your eyes, feel the
your hair, swing your hips from right to left, you're free to own yourself. But I get crazy sometimes, I'm out of my mind, I'm out of my mind. Nothing can bring me down or keep me sound, I won't give one more time.
Salut Jacqueline, vous êtes
salut
là?
Ma petite... Oui, oui, salut ma petite Nadia, j'ai eu peur, je me suis dit mince, les soucis qui reprennent, personne non. ne décroche, non, ça
non,
va.
Non, non, c'est juste, voilà, faut, c'est, en plus, bon, il y a une nouvelle table de mixage, il faut que je m'habitue aussi, donc, oh. Mais voilà, en fait, faut
elle
un
est
peu
toute
de...
belle, toute...
Oui,
toute
elle est magnifique, elle est magnifique, il faut juste que je m'habitue, voilà, et que j'ai les bons réflexes, donc je ne suis pas encore habituée, voilà, c'est pas... Donc voilà, je rappelle aussi aux auditeurs que je, en même temps que j'anime, et ben je m'occupe normalement de la technique et donc c'est pas des fois il y a des petits quicks.
Mais multi-talent.
Donc c'est pas voilà. Donc ça y est, on y est. Alors je disais donc voilà, on s'était donné maintenant un rendez-vous mensuel. T'es intervenu il y a un mois par rapport oui. aux droits des femmes et j'en suis très 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 heureuse. Alors, justement, dans l'actualité, on vient d'apprendre malheureusement qu'un probablement 59e féminicide a eu lieu en France. Et encore une fois, il s'agit d'une femme qui avait tenté d'alerter la police en vain. Encore une fois, une femme a été tuée par son conjoint ou son ex-conjoint.
Oui, oui, c'est une situation. D'abord, bonjour Nadia et merci de m'accorder votre micro. Oui Nadia, la France et l'Allemagne sont les deux pays européens avec le nombre le plus élevé de féminicides. Vous savez, nous nous sentons tellement démunis face à ces drames et tellement en colère. Parce que si nous avons des lois, ce qui fait cruellement défaut, c'est l'accueil. C'est d'ailleurs une revendication que nous avions formulée il y a une dizaine d'années. Vous vous souvenez peut-être de la grande campagne que nous avions menée et du rapport publié en 2010. La France peut mieux faire. Effectivement, la France peut mieux faire. Certes, des progrès ont été réalisés entre-temps et l'arsenal juridique a été considérablement renforcé. Bon nombre de nos recommandations ont été prises en compte, il faut le souligner, et nous en sommes vraiment très très heureuses. Pourtant, sur le terrain, dans les fêtes, la femme en danger qui s'adresse à son commissariat de quartier se voit aujourd'hui encore confrontée à d'énormes difficultés. Nous demandions que soit mise en place sur tout le territoire, un tissu, un réseau de référentes, de personnes formées et dédiées vraiment à l'écoute des femmes qui viennent chercher de l'aide. Il y a des associations absolument formidables qui font un travail d'accompagnement tout aussi formidable sur le terrain. Mais voyez-vous, les femmes en danger n'ont pas forcément le réflexe de se tourner vers une association, surtout dans les villes de moindre importance ou des villages ou à la campagne. Alors la femme en danger, elle court aussi vite que ses jambes le lui permettent au commissariat du coin, où malheureusement, on ne l'écoute pas toujours avec le respect et l'attention qui lui sont dues, qui lui seraient dues. Alors vous savez, entre 15 000 et 20 000 féminicides par an ont lieu dans le monde. C'est un chiffre flou, j'en ai mal au cœur de vous dire entre 15 000 et 20 000, parce que ce sont 5 000 cas entre ces deux chiffres, 5 000 femmes qui probablement ont été tuées également, mais tous les cas ne sont pas connus, tous les cas ne sont pas recensés, sont obstinément tués. Ce sont des cas dont les ONG entendent parler sur le terrain. Alors oui, nous avons des raisons d'être en colère. Tant de raisons d'être en colère, évidemment, et pas qu'en France. Mmh.
Vous faites allusion aux lois anti-avortement aux États-Unis ?
Exactement. notamment en l'occurrence à l'adoption. Je fais allusion, je condamne et je montre du doigt l'adoption par le Sénat de l'Alabama mardi dernier, mardi 14 mai, d'une mesure qui rend illégale l'interruption volontaire de grossesse dans presque tous les cas, même en cas de viol, même en cas d'inceste. Ne parlons pas du désespoir de la femme ou de la toute jeune fille qui sera obligée d'interrompre sa scolarité et qui sera probablement, comme c'est le cas le plus souvent, reprojetée dans le cercle infernal de la précarité. La mesure votée en Alabama est la dernière d'une série d'interdictions de l'avortement qui vise à priver des personnes de leurs droits reproductifs alors que ceux-ci figurent dans nombre de pactes et de traités internationaux signés par les États. Et cette nouvelle mesure est terrible et d'autant plus terrible qu'elle assimile l'avortement à un homicide. Et elle prévoit, imaginez, elle prévoit une peine allant entre 10 et 99 ans de prison pour les médecins qui la pratiquent, sauf en cas d'urgence vitale pour la mère ou d'anomalie létale, du fœtus. Alors, urgence vitale pour la mère, permettez-moi de vous dire que c'est un petit peu du blabla et que cela dépend de l'interprétation que l'on voudra bien donner à l'urgence vitale. Je vous rappelle, vous souvenez, il n'y a pas si longtemps de cela, je vous rappelle qu'en Irlande, avant que de nouvelles lois soient votées en faveur de l'IVG et que celles-ci soient inscrites dans la Constitution, on laissait mourir des femmes auxquelles on avait refusé l'avortement et qui mouraient avec un fœtus mort dans le ventre. Alors vous savez, urgence vitale pour la mère, je n'y crois pas beaucoup et c'est une situation absolument insoutenable. Et soyons lucides, ces interdictions auront des conséquences fatales. Elles mettent en danger la vie des femmes enceintes qui auront recours à des méthodes d'un autre âge. Alors je ne vais pas vous énumérer ce à quoi font appel les femmes en détresse, les ventouses, les
potions magiques. Oui, c'est une régression, un retour dans le passé terrible.
Ah oui, mais bien sûr, C'est simplement, surtout les femmes seront punies, doublement punies, parce que non seulement les médecins seront condamnés à des peines terribles, mais elles renforcent la violence contre les femmes, qu'elles font subir une double peine aux victimes de viols et de violences sexuelles en les privant de leur droit de bénéficier d'une interruption volontaire de grossesse.
Ouais, on peut peut-être rappeler aussi la résolution là qui a été entravée à l'ONU par rapport au viol comme arme de guerre.
Exactement. Où la possibilité justement, c'était absolument effroyable, où la possibilité justement pour la femme violée en temps de guerre d'avoir recours à un avortement pour ne pas avoir à subir cette double peine, et ce sont les États-Unis qui ont mis leur veto. Absolument... Si les autres pays auraient voulu maintenir leur avis, donc aucune voix, ce texte n'aurait même pas été voté du tout. Donc c'est déjà un petit mieux reconnaître que le viol en temps de guerre est une arme de guerre. Donc c'est un tout petit mieux, mais enfin les conséquences de ces viols de guerre, ces armes de guerre, les conséquences, c'est que lorsque la femme tombe enceinte, elle n'a pas le droit d'avorter. Alors, je vous avoue que c'est quand même c'est une contradiction en soi. Mais je voudrais quand même, pour terminer sur l'IVG, parce que nous avons beaucoup de choses à dire aujourd'hui, encore une fois, je voudrais quand même rappeler que dans le monde, on estime à environ 48 000 le nombre de femmes qui meurent chaque année des suites d'un avortement illégal, parce que l'accès à l'IVG est interdit dans leur pays. 48 000, vous savez, c'est un chiffre, on dit 48 000, 50 000, 30 000. Non, 48 000, imaginez, c'est presque 4 fois la population d'une ville comme Apt. Donc, on a ce chiffre contre... Vous voyez la ville d'Apt en Provence, dans le Vaucluse, et 4 fois cette ville qui, tous les ans, disparaît. Bah, ce sont toutes des femmes qui meurent des suites d'un avortement illégal dans des souffrances terribles, des infections sans nom et que personne ne vient en aide. Alors, colère, bien sûr, mais aussi, Nadia, mais aussi lueur d'espoir, parce qu'au Mississippi, où la justice a bloqué vendredi dernier une loi également très restrictive sur l'IVG, une loi qui prévoyait d'interdire l'IVG dès la détection du rythme cardiaque de l'embryon. Le texte voté devait entrer en vigueur le 1er juillet, mais le juge a estimé, et là il faut vraiment le reconnaître son courage, et puis son courage d'homme et de juge, tout simplement. Mais le juge a estimé que l'interdiction d'avorter était une menace immédiate pour les droits des femmes. Et bon, alors donc le texte n'est pas entré en vigueur, mais ce n'est pas gagné. Le gouverneur a annoncé son intention de faire appel de la décision de justice.
Je crois que savoir que les juges aux États-Unis ont énormément de pression et que c'est rare, c'est les juges qui vont aller dans le bon sens, en fait.
Oui. Non, mais c'est un juge, un homme, je ne le connais pas, mais je lui dis merci, monsieur le juge. Vous avez le courage d'avoir dit les choses telles qu'elles sont et que interdire aux femmes le droit de choisir, le droit de décider, parce qu'elles savent très bien qu'elles ne seront pas en mesure de porter l'enfant. Eh bien, je crois que c'est quelque chose. Pour nous, ça nous semble évident, si vous voulez. Mm-hmm. Mais là, aux États-Unis, vraiment, chapeau, monsieur le juge. Oui. Mm-hmm.
En tout cas, des femmes dans le monde essayent de se rebeller, de manifester un peu partout pour leurs droits. Mais oui. Dans certains pays, c'est un engagement qui leur vaut malheureusement des fortes menaces, des peines de prison.
Oui, les femmes protestent, les femmes se révoltent un peu partout dans le monde. Mais souvent, cet engagement leur vaut des peines de prison, et même plus que des peines de prison et coups de fouet, aussi invraisemblables et monstrueux que celui-là puisse paraître. Je voudrais vous parler de Nasrin Sotoudeh, une avocate iranienne défenseure des droits des femmes, qui vraiment a été condamnée à une peine qu'on arrive à peine à qualifier. À l'issue de deux procès manifestement iniques, elle a été condamnée à 38 ans de prison et 148 coups de fouet. Son crime ? Avoir dénoncé le port obligatoire du voile en Iran et avoir défendu les femmes qui, justement, avaient eu le courage de leur lever ce voile en public. Son dernier procès a eu lieu en son absence devant la 28e chambre du tribunal révolutionnaire de Téhéran. Elle n'a pas été autorisée à consulter son avocat. Et elle était poursuivie pour avoir... Enfin, ce sont des motifs qui nous semblent tellement, tellement ahurissants. Je vous les cite, pas tous, mais enfin quelques-uns. Elle est poursuivie pour avoir incité à la corruption et à la prostitution et avoir commis ouvertement un acte immoral, et tout cela en apparaissant en public sans porter le voile. Et parmi les activités que les autorités ont invoquées à titre d'éléments de preuve, je vous citerai son opposition, parce que Nasrin est bien sûr, du fait de sa protestation, elle est en opposition aux lois iraniennes. Elle a donné des interviews avant son arrestation le 13 juin l'année dernière. Avant son arrestation, elle a donné des interviews à des médias dans lesquelles elle parlait de l'arrestation violente et de la détention de femmes qui protestaient justement contre le port obligatoire du voile. Il faut rappeler que Nasrin est une femme courageuse, qui gêne. Son parcours est ponctué d'arrestations, d'interdictions, de harcèlement. Et souvenons-nous, en 2012, alors qu'elle purgeait une de ses innombrables peines de prison, elle s'est vu attribuer le prix Sakharov pour la liberté de penser, le prix attribué par le Parlement européen, ce qui probablement n'a pas été complètement du goût des gouvernants. Mais Nasrin n'est malheureusement pas la seule à croupir en prison pour avoir critiqué son gouvernement. Je voudrais vous parler d'une autre femme qui est moins sous les feux des projecteurs. Il s'agit de Narges Mohammadi, une femme ingénieure, une femme intellectuelle, une défenseuse des droits humains. En 2016, le tribunal révolutionnaire de Téhéran l'a condamnée à 10 ans de réclusion pour avoir participé à une campagne contre la peine de mort. Sa peine a été alourdie de 5 années supplémentaires d'emprisonnement pour un rassemblement et collusion en vue de commettre des infractions commettant la sécurité nationale et encore d'un an supplémentaire de prison pour propagande contre le régime. Ce qui rend la situation encore plus dramatique, si l'on peut dire, alors qu'elle est déjà parfaitement indicible, Narges Mohammadi souffre de pathologies extrêmement graves qui exigent qu'on lui dispense des soins médicaux appropriés. Or, les autorités pénitentiaires les lui refusent, ce qui équivaut vraiment à une violation des pactes internationaux que l'Iran a signés. Et si Narges Mohammadi ne reçoit pas bientôt tous les médicaments et les soins dont elle a besoin, elle risque vraiment de mourir en prison. Narges est mariée et mère de deux enfants qui vivent en exil en France.
Et que comptez-vous faire ou que pouvez-vous faire pour venir en aide à Nasrin Sotoudeh?
Nasrin, alors là, vous posez la bonne question parce que vraiment, ce sont ces 48 coups de fouet qui ont alerté, disons, l'opinion publique mondiale. Peut-être plus que ces 38 ans d'incarcération qui sont absolument innommables aussi. Alors, notre travail, Amnesty, on connaît le travail d'Amnesty. Alerter, dénoncer, mobiliser, sensibiliser, signer. Et là, vraiment, au niveau, nous avons lancé, en mars, nous avons eu connaissance du jugement et de sa condamnation à 38 ans de prison et 148 coups de fouet, nous avons lancé une pétition au niveau mondial. Et nous avons récolté, vraiment, entre-temps, environ 1 million de signatures, et en France, bientôt 90 000, il nous en manque encore quelques-unes pour atteindre les 100 000 signatures pour la France, donc ce serait formidable. Si vos auditrices et vos auditeurs allaient sur Internet, tapaient, entraient « pétition Nasrin », ces personnes tombent automatiquement sur le site d'Amnesty et que ces personnes signent la pétition. C'est une chose, mais je voudrais également appeler toutes vos auditrices et tous vos auditeurs qui seront à Paris le 13 juin. Le 13 juin, c'est la date anniversaire de son arrestation il y a un an. Alors, le 13 juin, à Paris, à 18h, mais pas seulement à Paris, dans de nombreuses capitales de par le monde, nous irons remettre ces signatures aux ambassades d'Iran. Mais pour ce faire, à Paris, le 13 juin, nous n'irons pas seuls. Nous ne voulons pas aller seuls manifester, nous rassembler. Honnêtement, nous imaginons, là, je fais confiance, j'en appelle à la solidarité et à l'engagement de toutes les femmes, de toutes les féministes, tous les hommes féministes. Nous imaginons une belle et véritable déferlante. Nous appelons les associations féministes, les associations de femmes, les ONG de défense et droits des femmes, de défense et droits humains. Nous appelons les femmes et les filles surtout, qui sont les femmes de demain, à se joindre à nous. Nous comptons vraiment sur la participation massive de toutes ces personnes qui militent pour que les droits des femmes soient un jour réalité pour toutes et partout. Alors je me permets vraiment de lancer cet appel. Venez le 13 juin, venez, mais en masse, nombreuses. Le point de rendez-vous, c'est à 18h, dans le petit parc à côté de l'ambassade d'Iran à Paris, qui se trouve à l'angle de l'avenue de Iéna et de l'avenue de Main, dans le 16e arrondissement, métro Iéna ou Trocadéro. Voilà, si je puis me permettre d'utiliser vos ondes,
bien sûr,
ce serait mon appel d'aujourd'hui.
Bien sûr. Ok. Bon, eh ben, je te remercie. On va être obligé de terminer puisqu'on arrive, il est déjà 2 heures passées. Et je te remercie beaucoup et à une prochaine fois dans un mois. Et encore désolé pour le petit problème technique.
Oh, mais ça peut arriver.
Oui.
Merci beaucoup, Nadia. Merci.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, donc on arrive à la fin de l'émission. Donc je voulais juste vous dire par rapport à l'agenda, demain à 18h30 au local de Solidaire, 29 boulevard Longchamp, il y a la projection du film « Quand je veux, si je veux », par rapport à l'IVG justement. Et je voulais signaler aussi vendredi à 19h au Théâtre de l'Œuvre, organisé par la CIMAD, dénoncer la machine à expulser les étrangers. Donc, par rapport à la rétention administrative qui est prévue pour organiser l'expulsion des personnes étrangères et depuis janvier 2019, la durée maximale de la rétention qui est passée de 45 à 90 jours. Chaque année, près de 50 000 personnes sont enfermées dans des centres ou des locaux de rétention administrative, pour moitié dans les départements d'outre-mer. la CIMAD dénonce ces prisons qui ne disent pas leur nom et demande leur suppression. La soirée décrypte et met en voie ce qui se trame dans cette machine à expulser. Voilà, donc je vous dis au revoir, je vous dis merci de votre soutien, de vos actions, et puis à la semaine prochaine ou à dans 15 jours. Au revoir.